à Versailles, dans la cour du château, un carrosse violet dévale sur les pavés, un carrosse signé Xavier Veillant, tout comme la quinzaine de sculptures que l'on peut voir actuellement dans ce chef-d'œuvre de l'architecture conçu au XVIIe siècle. Bonjour Xavier Veillant.
Bonjour.
Y a-t-il un lieu d'exposition plus prestigieux au monde que le château de Versailles ?
Oui. C'est une question que je ne me suis pas, jamais posée, mais sans doute, peut-être un jardin zen ou quelque chose comme ça.
Ah, ça vous inspirerait, c'est un jardin zen.
Je crois que je serais encore plus intimidé, en fait.
Là, vous l'avez été.
Dans un premier temps, oui. Et puis après ça, j'ai utilisé un peu l'énergie de ce qui se passait autour du projet de Jeff Koons, qui était, j'ai été invité en même temps que Jeff Koons. Et donc j'étais porté par cette espèce de vague qui, si elle m'a pas écrasé, m'a aidé.
Vous exposez en tout cas dans le château, mais aussi dans le parc, dans les jardins. Ce qui change quand même considérablement la donne, parce que c'est une promenade à laquelle vous nous conviez.
Oui, en fait, si la promenade autour des œuvres que j'ai installées pouvait générer un autre type de promenade pour le parc, je serais ravi.
Xavier Veillant, en son château, c'est à Versailles.
Je veux juste entendre parler de toi.
Culture vive, Pascal Paradou.
L'an dernier, le château de Versailles s'ouvrait à l'art contemporain en accueillant l'artiste américain Jeff Koons. C'est comme cela qu'une statue en porcelaine de Michael Jackson se retrouvait trônant dans la galerie des glaces ou un homard pendait au plafond d'une autre pièce du château. Cette année, c'est au tour de Xavier Veillant, donc avec cette exposition intitulée Versailles Veillant. C'est un titre un peu ronflant quand même, non ? Versailles Veillant.
Mais c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi, mais disons que je l'ai accepté. Ce qui était déjà quelque chose, mais comme ça s'appelait Jeff Koons Versailles, ça s'appelle Veillant Versailles. Et, bon, le graphiste avec qui j'ai travaillé sur l'image de l'exposition, qui s'appelle Yorgo Tloupas, avait proposé à un moment des logos avec deux V qui rayonnaient comme ça, et puis il m'avait envoyé un mail en me disant le logo est très beau, mais c'est peut-être un peu
trop.
Donc c'est vrai que on peut vite finir avec une perruque.
Alors en tout cas, le jeune artiste que vous étiez dans les années 90, parce que c'était l'étiquette qui vous collait à la peau, devient avec Versailles un artiste phare et particulièrement visible. Comment vous avez envisagé cette exposition, Xavier Veillant, quand Jean-Jacques Ayagon, qui est donc l'ancien ministre de la Culture, mais le patron du domaine de Versailles, vous a invité l'an dernier?
Mais d'abord, l'invitation venait de Jean-Jacques Ayagon, mais par le biais de Laurent Lebon, qui est un conservateur du Centre Pompidou et qui est qui s'occupe maintenant du Centre Pompidou à Metz et qui est un faiseur d'expositions que j'admire beaucoup et allié à une forme d'audace de Jean-Jacques Ayagon, parce que surtout vu de l'étranger, c'était quand même très très audacieux cette invitation à Jeff Koons. Qui est un peu en décalage par rapport à certaines expériences dans des musées, musée d'Orsay, au Louvre, etc. Parce qu'il y a une carte blanche vraiment importante qui est donnée à l'artiste. Mais ce qui était intéressant, c'est que tout à coup, la dimension du projet était assez... c'était une page blanche. Alors évidemment, il y a des questions de temps, des questions d'économie, mais au niveau créatif, ça me permettait de partir vraiment dans une direction qui était assez ouverte. Et j'ai commencé par aller là-bas et vraiment en séjournant dans le château, en visitant au milieu de groupes de touristes et en séjournant dans le jardin. J'ai été un peu happé par les formes de grâce qu'il y a là-bas et que je ressens quand on reçoit des gens là-bas, c'est formidable parce qu'on a l'impression qu'ils ont reçu une sorte de massage ou qu'ils sont beaucoup plus décontractés. Souvent les gens arrivent de Paris et il y a une dimension de naturelle comme ça qui est assez étrange puisque c'est un lieu très construit, mais en même temps les éléments ils sont très forts et c'est donc vers l'extérieur que j'ai voulu me tourner principalement.
Donc le château et le parc, parce que contrairement à Jeff Koons qui n'exposait que dans le château, vous envahissez, le mot est pas très joli, vous investissez plutôt le jardin de Versailles qui est quand même un sommet de rigueur et de classicisme, mais finalement ça vous va bien. Vous dites souvent que vous êtes un artiste constructeur. Cela veut dire quoi, Xavier Veillant?
Ça veut dire que, en fait, même si À l'origine de mon travail, il y a toujours une idée qui trouve une formalisation, qui est d'ailleurs assez différente suivant la nature des idées. J'attache beaucoup d'importance à la construction des choses, et que l'art lui-même est une construction. Et d'ailleurs souvent, je donne à voir aux gens le truc ou l'artifice qui est derrière cette construction. C'est-à-dire que le spectateur, pour moi, est impliqué, doit être impliqué, doit être une sorte de partenaire de la vision dont l'œuvre est un outil, en fait.
Donc vous cherchez à lui créer une sensation quasi physique au spectateur.
Oui, c'est-à-dire que je pense qu'on a trop souvent séparé ce qui est de l'ordre de la vision et du mental, et d'un côté, et puis ce qui est de l'ordre d'une certaine sensualité ou physicalité. Et je pense que c'est peut-être le fait d'être, par exemple, un amateur de musique ou d'être allé beaucoup dans des clubs et d'écouter, par exemple, pas mal de musique électro. Et pour moi, il n'y a pas de différence entre la physicalité dans ce domaine-là, par exemple, et ce qui est purement de l'ordre de l'auditif. Et dans l'art, c'est un petit peu la même chose. Moi, j'aimerais bien inviter les gens à participer à des sortes de promenades assez ouvertes, assez libres, mais où, en même temps, il y a des sortes d'événements visuels qui sont soutenus par des œuvres, mais les œuvres en sont seulement les vecteurs, en fait.
Et c'est ce qui se passe exactement à Versailles. Puisque si on fait un tout petit peu la promenade, on accède donc au château, ça monte très très légèrement, on est sur la place d'Armes, et il y a ce fameux carrosse violet qui semble quitter comme ça le château à toute allure. Si je vous dis Varennes, la fuite du roi, oui, forcément, vous y avez pensé, Louis XVI quittant Versailles.
Et en fait, là, je dois avouer que au tout début, j'y ai pas pensé. Parce que, je sais pas, c'était plutôt l'idée d'une sorte de ready-made. C'était une idée très simple qui était de montrer un objet qui a tout à fait sa place à cet endroit, mais qui est comme distordu par un traitement contemporain, et c'est une sorte de métaphore du lieu avec son côté patrimonial et de ses visiteurs avec leurs t-shirts et leurs appareils photos. Et en fait, cet objet est une sorte de métaphore de ces deux éléments mis en présence.
Il y a un côté très futuriste dans ce carrosse. On a l'impression qu'il y a des flammes comme ça qui seraient aussi comme le vent qui aurait déformé le carrosse dans sa vitesse. Pourquoi violet?
D'abord, ce qui est amusant, c'est que quand on fait un objet d'une seule couleur, et ça éveille la question. Et en fait, une des raisons de la monochromie et du choix de couleurs parfois assez radical, pour moi, c'est justement qu'on se pose la question. C'est amusant.
Donc c'est réussi.
Dès qu'on met deux couleurs en présence, par exemple, les gens ne posent plus la question par rapport aux couleurs. Et là, il y a un faisceau de raisons. D'abord, c'est une couleur qui ressort très bien par rapport à la pierre. Et il y a une autre pièce qui est de la même couleur, qui est le mobile, qui est dans l'escalier Gabriel et qui se détache très bien et qui révèle en fait la beauté de la pierre aussi. Et puis, il y a une raison qui est de trouver... Je voulais une couleur qui ait une connotation historique et une sorte de complexité derrière elle, mais aussi quelque chose d'assez pop. Et c'est une couleur qu'on retrouve, bon, par exemple, dans les couleurs un peu de t-shirt c'est une couleur assez à la mode. Et donc j'aime bien cette espèce, un peu comme dans la forme du carrosse d'ailleurs, de tension qu'il y a entre quelque chose qui semble... Par exemple, c'est la couleur du deuil du roi. C'est aussi une couleur liée à la religion. C'est une couleur, pour moi, qu'on peut facilement associer au passé. Et en même temps, elle a une sorte de pêche pop.
Donc, il n'y a pas de hasard. Seconde cour, c'est la cour royale. Alors, cette fois, on va faire un peu la promenade. Hein. Il y a une femme nue, alors qui est minuscule. Mais vous aimez, hein, Xavier Veillant, travailler sur les questions d'échelle. Ce carrosse immense, et puis cette femme nue. Et si on avance encore un petit peu, dans l'axe, dans la cour de marbre, au sol, allongée la statue d'un cosmonaute, 4 mètres de long, et c'est Yuri Gagarine. Pourquoi lui? Parce que le carrosse, je comprends, Versailles, mais Gagarine.
En fait, c'est un cheminement peut-être un petit peu plus compliqué que le carrosse. C'est vrai que là, je l'ai pas trouvé dans le château. Mais en même temps, quand on regarde un petit peu l'audace qui était derrière les choix de Louis XIV et surtout les choix des artistes qu'il a invités à travailler à Versailles, On se rend compte qu'il y a cette idée de conquête de l'espace, de conquête de l'espace littéralement, et la conquête de l'espace, eh ben, au siècle dernier, avec peut-être d'autres découvertes scientifiques, mais c'est ce qui a frappé le plus l'imaginaire, et je pense qu'il y a un parallèle très fort entre la manière de prospecter l'espace de Louis XIV et celle de Yuri Gagarine.
Donc Versailles serait toujours la modernité.
C'est l'instant de suspense sur l'aérodrome de Moscou. Des milliers de regards se sont concentrés sur l'homme en uniforme qui descend d'avion, Yuri Alexeïevitch Gagarine. Le président Khrouchtchev avait voulu être le premier à le serrer dans ses bras. Il le fit dans l'enthousiasme. Lui, Yuri Gagarine, embrassa un père et une mère dont on imagine l'émotion. Le jour G, comme Gagarine, avait commencé pour Moscou. Une ovation ininterrompue a conduit l'homme de l'espace jusqu'à la place rouge. Et à la tribune du mausolée de Lénine, la foule qu'on a évaluée à plus d'un million de personnes a pu acclamer à loisir l'homme qui peut, le premier, se vanter d'avoir vu de ses yeux la Terre ronde comme une boule et d'avoir vécu la plus extraordinaire aventure du siècle.
Gagarine, voilà pour l'actu de 1961, puisque c'est à cette époque-là que le russe s'envoyait en l'air. Aujourd'hui, c'est sa statue allongée gisant qui fait l'actualité à Versailles, et ce grâce à vous, Xavier Veillant. Alors on va continuer cette promenade un petit peu d'un pas rapide. Donc on est dans la cour de marbre. Dans l'aile droite du château, on passe dans l'escalier Gabriel, de marbre blanc, avec cet immense mobile qui fait penser à Calder, qui est violet, qui tranche comme ça sur la pierre. On traverse la galerie des glaces. Là, il y a une toute petite sculpture de mécanique. Et puis, dans l'aile gauche, une light machine, qui est une de vos inventions, que je trouve absolument somptueuse. C'est quoi? C'est un tableau lumineux composé, en l'occurrence, là, de 1000 ampoules, et projeté un film.
En fait, c'est un petit peu comme si vous connectiez chacun des pixels d'une image qui bouge sur un écran de télévision ou d'ordinateur à une ampoule. Une ampoule, donc, qui est noir et blanc, ou allumé et éteinte, si vous voulez, mais sauf qu'il y a 124 degrés de gris pour chacune de ces ampoules. Donc la définition est très mauvaise, mais le modelé, un peu comme sur un beau tirage photo, il y a tous les niveaux de gris avec un grand modelé, une grande finesse. Et ça permet de faire des images qui sont un petit peu, qui donnent un effet un peu comme si c'était une flamme ou un feu devant vous.
Un peu fantomatique aussi.
Un feu figuratif. Mmh. Oui, il y a cette idée de fantôme que j'aime beaucoup, c'est vrai. Et il y a une sorte d'image un peu rémanente, il y a une sorte de douceur, parce que le filament devient incandescent avec un rythme qui n'est pas justement celui de l'image électronique.
Donc light machine comme ça dans un escalier, et puis on accède au jardin de Versailles avec une procession de statues d'architectes. Alors ils sont grandeur nature, érigés sur des socles assez hauts, un peu plus grands, ouais. Hein, même, oui, j'ai pas été vérifié, parce que forcément ils sont inatteignables, ils sont plus hauts.
Mais vous avez raison, parce qu'ils sont faits pour avoir l'air grandeur nature, et comme souvent les sculptures dans les parcs, elles sont un peu, là c'est à peu près 20% plus grand que la taille réelle.
Et ils sont installés sur une sorte de courbe, sur des socles qui enjambent pour certains les bassins devant la grande façade de Versailles, et tous semblent regarder vers le Grand Canal. Ils sont neufs. Est-ce que c'est un hommage à l'architecture en général?
Oui, parce que c'est un des domaines... On a toujours une forme de fascination réciproque, je crois, entre les artistes du domaine visuel et les architectes, parce que les architectes sont souvent dans des pressions politiques et économiques plus fortes que les artistes, et en même temps, je pensais à Foster, par exemple, qui a construit le viaduc de Millau. Il y a une dimension d'inscription dans le réel qui n'est plus métaphorique, et donc qui est fascinante pour moi, par exemple. Et puis, bon, j'ai la chance de connaître un petit peu Renzo Piano. Quand on pense à ce que ça peut être socialement, politiquement, que de construire un bâtiment comme le Centre Pompidou, il y a vraiment un avant et un après. Et ça, même pour des très grands artistes, c'est difficile à atteindre. Et il y a cette idée aussi d'une forme de positivité, de modernité qui est portée par l'architecture aujourd'hui et qui est plus un domaine fréquentable pour la politique, par exemple, cette espèce de positivité. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup cette idée qui est très dynamique que je voulais associer à Versailles.
Donc, 9 architectes, un peu plus grands que grandeur nature, Renzo Piano, notamment, que vous avez cité, Tadao Ando, Foster, Richard Rogers, Claude Parent. Mm-hmm. Qui est peut-être l'un des moins connus, qui est un théoricien de l'oblique, oui. Qui est un architecte français, qui est alors le premier ou le dernier, parce que c'est celui qui regarde, qui est le plus près au bord des terrasses, qui regarde l'horizon, parce que l'idée est de nous amener à regarder l'horizon aussi, j'imagine, par cette procession d'architectes.
Tout à fait, Claude Parent est au point de vue du roi, qui est le lieu de choix, disons, mais c'est aussi c'était une rencontre en fait, parce que pour les faire ces statues, j'ai dû les rencontrer, d'abord les courtiser, les chasser quasiment, parce que pour passer une heure avec Tadao Ando aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'avec un chef d'État par exemple, hein, je pense. Et c'est pas exagéré, c'était vraiment un travail énorme des gens de mon atelier par exemple, de réussir à organiser ça. Et Claude Parent, ça a été une rencontre formidable, parce que c'est un peu le doyen de l'architecture française, et c'est un architecte assez peu connu, mais quand vous en parlez à n'importe quel architecte, il y a un énorme respect.
Une lumière dans l'œil.
Ah oui, vraiment. Et puis c'est un monsieur, quoi. C'est pour ça que je l'ai fait poser aussi. Je lui ai demandé s'il voulait bien poser en habit d'académicien. Il y a une idée aussi de panache et de modernité liée à son architecture que j'aimais beaucoup.
Et puis dans cette cohorte d'architectes, il y a Jean Nouvel, mm-hmm. qui développe des théories qui ne vous sont pas quand même très très éloignées, Xavier Veillant. Écoutez ce qu'il disait au moment de l'inauguration du musée du Quai Branly.
Non, mais on fait de l'architecture avec des idées, avec des concepts, et on l'a fait aussi en termes sensibles. La catastrophe architecturale d'aujourd'hui dans la fabrication des villes, et l'architecture, c'est que les trois quarts du temps, on part de règles purement fonctionnalistes issues du XXe siècle. On commence par mettre des réseaux, des densités qui sont toutes les mêmes, des programmes stéréotypés. Moi, je dis que tout changera le jour où on commencera par des règles sensibles, où on commencera par parler de couleurs, de variations de forme, de brillance, de je sais pas quoi, de tas de choses, de la nature, des essences dans un paysage, et la fonction suivra, je dirais. Bon, mais il faut que l'architecture véhicule des émotions et des sensations, bien sûr. Et l'architecture, c'est comme la musique, c'est là pour faire plaisir, autant que faire souffrir.
Couleurs, des sensations, des émotions, des surfaces, du plaisir, finalement c'est tout votre vocabulaire aussi, Xavier Veillant.
Oui, je pense que c'est d'ailleurs pas du tout en rupture par rapport à une conception un peu plus intellectuelle de l'art. C'est justement, je pense que, comme Jean Nouvel le disait là, il y a aussi une forme de continuité entre ces domaines, et c'est vrai que lui qui avait prôné par exemple à un certain moment l'espace comme un luxe avant tout, c'est-à-dire de se concentrer sur ce qu'on offre comme air aux gens qu'on accueille, c'est aussi quelque chose qui est assez présent à Versailles et dans mon propos
général. Dans votre travail, oui, en général, vous avez vous êtes souvent intervenu comme ça dans l'espace public. Je pense à des sculptures comme le monstre à Tours, qui est comme une créature qui lève les bras comme si elle allait vous manger, ou bien le lion à Bordeaux qui est bleu comme ça à l'entrée d'un pont immense. Vous intervenez sur l'espace public un peu de la même façon que vous intervenez là dans les jardins de Versailles. Et puis vous jouez toujours avec les surfaces, avec des effets d'abstraction très très grands. Et sur ce défilé comme ça d'architectes, pour certains on les reconnaît, pour d'autres en revanche ils sont très stylisés, presque cubistes. Pourquoi ces choix-là? Pourquoi tout d'un coup il y a cette espèce de mouvement et de vague entre la figuration et l'abstraction?
Bah c'est ceux avec qui ça s'est mal passé, quoi. non, pas du tout, mais c'était lié d'abord à la nature de la pose et au résultat du scan. Il y avait certains.
Oui, parce qu'il faut, on l'a pas dit ça, mais il faut expliquer. Vous les avez fait poser et vous avez scanné leur image.
Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans une période qui est très intéressante au niveau technologique, où on rejoue 150 ans après un peu l'apparition de la photo, mais avec une troisième coordonnée qui est on est était en XY, si vous voulez, pour les points qui constituent une photo. Et là, on est en XYZ, on est en trois dimensions, avec donc des polygones à la place de carrés, qui donc permettent de capter les points qui constituent l'enveloppe d'une personne et d'avoir un fichier qui représente cette personne dans l'espace. Mais c'est un processus assez lourd qui nécessite que les gens soient vivants, qu'ils soient présents et qu'ils soient consentants. Donc ce qui m'intéresse, c'est que c'est une sorte d'anti-culture du snapshot. On ne vole pas l'image, la personne qui pose participe à une création, et avec son corps, avec sa présence dans l'espace. Certains de ces architectes ont une très très forte présence dans l'espace et une très grande maîtrise, d'ailleurs c'était intéressant dans le processus à voir. Et donc il y a une participation de ces architectes, là en l'occurrence, mais qui mène à s'installer dans une pose, et en fait c'est ça qui m'intéresse plus qu'une analyse psychologique ou quelque chose que je pourrais rajouter, c'est de laisser au contraire rentrer le modèle, et qui est une sorte c'est des sculptures qui sont des statues qui sont à 50% faites par ces gens, quoi.
Et à 50% par l'ordinateur.
Oui, ou
sachant en fait, vous faites le lien entre les deux.
Ce qui est amusant, c'est que moi j'essaye de me retirer le plus possible pour créer une sorte d'effet de vide, donc pour que la personne qui pose ou que le spectateur puisse s'investir dedans. Et en fait, ça marche pas du tout parce que, je pense que j'arrive à obtenir une partie de ce résultat, mais en fait, ces technologies où on imagine qu'on appuie sur un bouton et que ça sort sont en fait faites avec beaucoup de qualité de beaucoup de gens dans une chaîne de fabrication, qui est un élément très important dans mon travail. C'est par exemple à la fin de l'exposition, un générique avec toutes les entreprises qui ont travaillé sur ce projet, et ces entreprises en général ce sont des gens, et c'est un travail collectif qui est très important.
À quoi ressemble votre atelier, Xavier Veillant ? Parce que vous travaillez finalement à l'ancienne, en faisant poser des modèles, en faisant des statues plus ou moins ressemblantes, mais des statues comme celles qu'on trouve de Rodin dans Paris ou ailleurs. J'imagine que votre atelier, en revanche, ne ressemble pas du tout à celui de Rodin, mais plutôt à un laboratoire avec plein d'ordinateurs.
Ben oui, il y a effectivement beaucoup d'ordinateurs, il y a plein de gens dont je me demande parfois ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils sont. Non, mais j'ai une équipe qui est vraiment formidable. C'est très important pour moi. Et mais ce qui est basé, le fonctionnement de cette équipe est basé sur une relative autonomie et sur le rayonnement de certaines idées qui ont besoin de gens qualifiés. Et ces gens-là sont souvent, comme les fondeurs qui ont travaillé sur ces expositions, ou les gens qui font de l'infographie, sont souvent à l'extérieur de l'atelier. Donc si vous voulez, même géographiquement, on est 7 ou 8, on était plutôt une dizaine cette année à l'atelier, parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Mais parfois on peut être 3 ou 4, mais c'est toujours avec un réseau de gens autour de nous, et ça c'est vraiment crucial.
Le collectif donc.
Oui.
Alors on parlait de modernité, Xavier Veillant, voilà un album qui sonne comme il se doit, c'est la Suédoise de Taken by Tree et son nouvel album East of Eden. Du paradis Taken by Tree sur RFI et dans Culture Vive. Alors s'il faut compléter la promenade à Versailles, Xavier Veillant, il faut dire que sur un des parterres, comme ça on est sur la terrasse, on voit sur la pelouse de Versailles une lune pixelisée qui est en fait une anamorphose, et puis très très loin dans le grand bassin un jet d'eau de 100 mètres de haut. Voilà une prouesse. Après Versailles, tous les musées vont vous sembler petits, non ?
Non, je crois pas du tout, parce que en fait c'est un peu passé à l'épreuve du quantitatif que de faire une expo comme ça. La première chose pour moi, c'était de considérer le public et d'essayer de faire quelque chose d'adapté au type de visibilité que peuvent avoir des œuvres dans ce cadre-là. Mais je pense que je serais très content de retourner à des expositions avec un mode de relation plus intime aussi après ça. Et on sait bien, histoire de l'art, que c'est pas forcément les quantités qui font l'importance des choses.
Merci Xavier Veillant, et on vous suivra donc à Versailles et ailleurs. À Versailles en tout cas, c'est jusqu'au 13 décembre, et le catalogue de cette exposition, mais qui est plus large, qui est un catalogue rétrospectif, est édité aux presses du Réel. Culture Vive avec Florence Ponce, réalisation signée Nicolas Piga, Clément Atlan à la technique. Demain, nous serons avec l'auteur de théâtre David Lescaut.